Dictionnaire de la sagesse ancienne avec David Goulois et Dominique Abdelnour. Cette émission présente les concepts fondamentaux de la sagesse ancienne, sagesse éternelle qui comprend les traditions initiatiques du passé et aussi les enseignements ésotériques modernes. Pour aller plus loin ou pour réécouter des émissions, vous pouvez vous rendre sur le site de David Goulois, www.sagesseancienne.com. Bonjour David.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous allons parler de l'espace et du temps. Dans une vision scientifique, nous donnerons aussi une vision philosophique, mythologique et ésotérique. Nous verrons que beaucoup de notions présentées dans les traditions se retrouvent dans la physique moderne. Et ces notions, effectivement, ne correspondent pas à la réalité, au ressenti de la réalité de l'espace et du temps que nous avons dans la vision de tous les jours. Alors, qu'est-ce que c'est le temps ? Qu'est-ce que c'est le temps ? Évidemment, nous, dans la vie de tous les jours, on a une notion du temps, c'est l'horloge, c'est les montres. Alors, le temps, dans la science, en fait, c'est une invention de Newton. C'est-à-dire que Newton, c'est lui qui a conçu toute la physique classique, hein, tous les mouvements des trains, des voitures, des planètes, etc. Il a mis des théories là-dessus et il a inventé une variable qu'on a appelée le temps et qui permet de corréler, par exemple, le mouvement de deux pendules ensemble, de deux horloges. Et il a donné le temps et jusqu'au début du siècle, hein, le temps était considéré comme une donnée fondamentale, une notion fondamentale.
Alors oui, Madame Blavatsky, dès une ésotériste russe de la fin du 19e siècle, disait déjà dans son ouvrage La Doctrine Secrète que l'espace est une entité, mais pas le temps. C'est-à-dire qu'en langage kantien, Kant dirait que ce n'est pas une chose en soi. Ce n'est pas un noumène quelque part, c'est un phénomène. C'est quelque chose que l'on observe et qui est un fait psychique. On voit des choses bouger et notre cerveau, notre conscience à travers le cerveau, interprète ces mouvements en termes de durée, donc de temps.
Alors, la physique moderne, elle a complètement cassé la notion de temps. Hein. C'est Einstein. Déjà, en début du siècle, avec la relativité restreinte, c'est venu d'une expérience, hein, une expérience où on a mesuré la vitesse de la lumière et on s'est aperçu qu'elle était constante. Alors tout le monde sait bien que dans notre vie de tous les jours, les vitesses s'additionnent. C'est-à-dire que quand on lance une boulette de papier, elle fait 3 mètres à la seconde. Quand on la lance dans un TGV, pour un observateur qui est au sol, elle a la vitesse de la boulette de papier plus la vitesse du TGV. Et bien avec la vitesse de la lumière, c'est pas vrai. La vitesse de la lumière est la même pour l'observateur qui est dans le TGV et l'observateur qui est sur le sol. Donc ça a commencé à casser la notion de temps. C'est-à-dire qu'on a vu que le temps dépendait de la vitesse. Puisque la vitesse, elle est constante, la vitesse de la lumière est constante, ça veut dire que le temps dépend de la vitesse. C'est-à-dire que, par exemple, c'est le fameux paradoxe des jumeaux, hein. Il y a un jumeau qui part à toute allure explorer l'espace. Quand il revient, il a 30 ans et son jumeau qui était resté sur Terre a 40 ans.
Voilà, en fait, dans la relativité restreinte d'Einstein, on verra après pour la relativité générale, elle est restreinte parce que dans cette relativité, Einstein n'a pas tout de suite à essayer de comprendre comment fonctionnait ce rapport espace-temps, le rapport avec la lumière et autres. Et après, dans la relativité générale, il a essayé donc d'appliquer d'une façon générale à tout l'univers cette compréhension. Donc, dans la relativité restreinte, c'est la fameuse équation E égale mc2. Einstein a découvert que l'énergie pouvait être permutée en matière et la matière en énergie. E égale mc2, E c'est l'énergie, m c'est la matière et c c'est la vitesse de la lumière au carré. Ce qui est un chiffre énorme parce que c'est 300 000 au carré. Et c'est intéressant, c'est que cette idée que plus on s'approche de la vitesse de la lumière, quelque part, il y a une notion de contraction de l'espace et une sorte d'allongement du temps, du facteur temps, c'est-à-dire comme si la notion de temps telle que nous on la comprend disparaissait et on s'approche d'un temps éternel, c'est-à-dire d'un temps zéro quelque part, comme dans un trou noir.
Ça se voit par exemple pour un photon. Hein. Un photon, c'est une particule de la lumière, donc qui va à la vitesse de la lumière. Et un photon ne connaît pas le temps. Pour lui, il est éternel. C'est-à-dire qu'entre le moment où il quitte je sais pas, la galaxie d'Andromède et le moment où il arrive sur Terre, il ne s'est écoulé aucun temps.
Oui, si, c'est comme si on voyageait toujours à la même vitesse. Donc, quelque part, le temps n'existe plus. On est comme dans un temps zéro. Et on se rend compte, dans cette relativité restreinte, qu'il y a, si on prend le temps comme une notion de déplacement, hein, on a donc plus on approche de la vitesse de la lumière, quelque part, plus, quelque part, les notions de matière, d'espace vont se contracter. Moi, tel que je le comprends, c'est comme si la matière perdait son état matière et se transforme en énergie, au point où on pourrait imaginer que cette matière devient pure énergie et l'énergie peut redevenir pure matière. Cette équation, philosophiquement, on peut la comprendre comme cela. Vraiment un rapport entre les deux. Et si on prend n'importe quel objet et qu'on l'accélère, alors nous, on n'a pas ces vitesses-là, donc on ne se rend pas compte, parce qu'en avion, un avion, par exemple, ça va à environ 800, 900. 900 km/h, mais c'est rien par rapport à 300 000 km parcourus en une seconde. C'est une vitesse prodigieuse, mais si on allait à cette vitesse-là, on ne pourrait plus avoir de masse. C'est ça l'idée, c'est qu'on deviendrait pure lumière, pure énergie, parce que la lumière n'a pas de masse. C'est une particule interactive qui n'a pas de masse. Donc c'est la compréhension philosophique que l'on peut faire, et c'est ce que l'on dit dans l'ésotérisme, que l'énergie peut devenir matière, la matière peut redevenir énergie, et que plus on approche de la vitesse de la lumière, plus nos idées d'espace et de temps, quelque part, se dématérialisent, pour faire image. C'est pour ça que dans un trou noir, où là on a une compression énorme, on a une notion de, on a un temps qui s'arrêterait. On pense que dans un trou noir, le temps s'arrêterait, et qu'on a une contraction de l'espace au point où l'espace même semble disparaître.
Alors justement, les trous noirs, c'est lié à la relativité générale. La relativité générale dit que le temps dépend de la gravité. Hein, c'est-à-dire la gravité, par exemple, c'est l'attraction terrestre. Plus une masse est grosse, plus elle attire. Plus on est proche du centre de cette masse, plus la gravité est forte. Et Einstein, dans sa théorie de la relativité générale, a dit que le temps variait avec la relativité. Et que, pardon, que le temps, Einstein a dit que le temps variait avec la gravité, c'est-à-dire que la gravité ralentit le temps. Alors ça, c'est une notion complètement folle, hein, pour des personnes, mais c'est une des preuves, ça a été prouvé. La relativité générale a été prouvée par l'expérience, et tout le monde, tous les gens qui ont des GPS dans leur voiture, les GPS comportent une correction pour la relativité générale. Et apparemment, quand le GPS a été développé pour les généraux de l'armée américaine, les généraux de l'armée américaine ont dit, attendez, qu'est-ce que c'est que votre correction en relativité générale? Le temps n'existe pas. Vous m'enlevez cette correction et on va voir. Ils ont vu que ça ne marchait pas. Donc après, on a réintroduit cette correction.
Oui, plus on approche, quand on est sur Terre, on est en fait attiré par la gravitation, hein, qui s'exerce au niveau du centre de la Terre. On est vraiment donc tenu. On sait très bien qu'à partir d'un certain niveau, quand on sort du champ gravitationnel, on entre en orbite parce qu'on est sorti du champ gravitationnel. C'est comme ça que fonctionnent d'ailleurs les satellites. Ils sont sortis du champ immédiat gravitationnel. Einstein a expliqué qu'il y avait une adéquation entre accélération et chute. C'est ça en fait. Quand il a appliqué sa théorie restreinte de la relativité restreinte à un niveau universel, général, il a compris que la chute des corps, que l'accélération était la chute en fait dans ce champ gravitationnel. C'est comme ça que les choses chutent, se déplacent, bougent, parce qu'il y a à chaque fois un champ gravitationnel. On donne l'exemple, parfois on peut prendre un tissu, par exemple on met un morceau de drap blanc sur une piscine et on prend une boule de pétanque et on la laisse tomber. Cette boule de pétanque va tomber sur le tissu et s'enfoncer. Et le tissu va s'enfoncer dans la piscine, pour faire image. Et bien c'est ce que fait le champ gravitationnel. Plus le champ gravitationnel est fort, plus il déforme l'espace-temps, plus il crée donc des courbures, et plus il y a accélération. Et donc plus le champ est fort, plus quelque part, pour faire image, on s'approche quelque part de cette vitesse de la lumière, hein, au point où, dans des champs gravitationnels très forts, comme donc les trous noirs, ça disparaît. On se rapproche d'un temps zéro. C'est pour faire image, comme si la notion de temps, elle, augmentait en valeur et les distances se contractent quelque part. Donc on a un rapport qualitatif et proportionnel inverse entre une notion de distance qui se réduit et une valeur temps qui va aller en augmentant au point d'arriver à un temps zéro. C'est ça en fait quelque part qui se passe. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça ralentit.
Oui, enfin ça ralentit pour un observateur qui regarde ça de
Tout
loin et
dépend du
dans
point de
un autre
vue.
endroit. Donc ce que ça veut bien dire, c'est que le temps n'est pas le même, par exemple, sur la galaxie d'Andromède et chez nous.
Non.
Le temps n'est pas le même en haut de l'Himalaya et
Tout dépend
à Deauville,
du
par exemple.
référencement par rapport au champ gravitationnel.
Exactement. Donc sur l'Himalaya et à Deauville, on n'a pas le même temps. Ça varie pas beaucoup, mais ça. Alors, quand on regarde un petit peu toutes les traditions ésotériques, ce qu'on dit dans les gens qui philosophent un petit peu, on a aussi des notions qui disent mais le temps n'existe pas. Le temps est une succession d'états de conscience. C'est-à-dire que il y a un changement d'état de conscience. Je suis consciente que je suis à cet endroit, à cet autre endroit, et c'est ça qui ferait le temps.
Alors, on a par exemple le mythe grec de Chronos. Chronos représente la naissance du temps, quelque part, ou du cycle. Chronos a donné tout ce qui est chronique, chronomètre. Donc Chronos, c'est le temps tel qu'il apparaît à la naissance de l'univers ou à la naissance de la Terre. Chronos a comme père Ouranos qui représente cette éternité. On dirait temps zéro, c'est-à-dire l'absence de temps, le non-temps. Et quand Chronos émascule son père et prend sa place, Chronos est un titan, il représente la création du monde. Dès que l'espace apparaît, philosophiquement, on va avoir du mouvement, donc on va avoir du temps. Et c'est comme ça que l'on comprend cette notion de temps, pas comme une chose en soi, comme on disait au départ, mais comme une manifestation, comme des phénomènes. Qu'il n'y a pas une entité temps, alors qu'il y a philosophiquement des entités espace. Il y a l'espace en tant que cosmos complet, galaxies, constellations, système solaire, l'espace planétaire, et nous-mêmes, on est un espace humain, et on a des expériences cycliques différentes. Mais il n'y a pas une chose en soi, il n'y a pas une entité qui serait le temps proprement dit. Donc quand Chronos émascule son père, ça, Chronos représente le troisième aspect de Dieu, la manifestation de l'espace et donc du temps, parce que l'espace va se modifier, et c'est ce qu'on appelle le temps quelque part. C'est des modifications, des fluctuations vibratoires dans cet espace. Et nous, on enregistre ça comme du temps. C'est ce que représente Chronos. Et il y a une autre image en Inde, c'est Vishnu qui représente la conscience. Quand Vishnu est non manifesté dans l'absolu, il est couché sur le serpent qu'on appelle Ananta, qui veut dire éternité. Puis, ce serpent est enroulé sur lui-même. Et quand l'espace se manifeste, ce serpent se déroule, et il se déroule d'une façon ondulatoire qui représente exactement l'ondulation qu'on étudie dans les fréquences et les longueurs d'onde, hein, c'est-à-dire c'est une notion d'onde, donc une notion de variation, d'oscillation, de mouvement. Et ça, c'est le serpent à ce moment-là qui est contemporain de la création du monde. Il n'est plus replié sur lui-même, il se déroule, mais pas dans une ligne droite, mais d'une façon ondulatoire. Et on a tous les phénomènes vibratoires qui vont apparaître et qui sont consécutifs à la création de l'univers.
Est-ce que tu es en train de dire que le temps qui se déroule de façon continue n'existe pas, mais qu'il existe des notions de cycle ?
Oui. Oui, et c'est ce que l'on enregistre tous les jours, en fait. Alors nous, on a le temps de la montre qui, en fait, tout simplement est un repère extérieur et qui nous dit qu'à ce moment-là, le cycle de la journée se trouve à tel espace. C'est quelque part, on pourrait dire, en termes de soleil, par exemple, la position du soleil, quand il est telle heure, c'est tout simplement que la position, donc on est bien dans quelque chose de spatial, la position du soleil est autre à 18h qu'à 6h du matin. Et nous, on le traduit en termes de temps, mais c'est encore quelque chose de spatial.
Moi, je voudrais dire aussi que quand on regarde sa montre et qu'on dit qu'il est, par exemple, 18h20, on n'a pas accès à une notion absolue qui serait 18h20, mais en fait, au nombre d'oscillations du quartz de la montre ou au nombre de petits mouvements de la trotteuse, etc. Donc, c'est vraiment un changement dans l'espace, hein, de quelque chose ou de phénomènes qui se sont produits. Hein, c'est un nombre de phénomènes qui se sont produits plutôt qu'une vraie réalité.
Oui, pour les anciens, en fait, les premiers calendriers sont toujours liés aux astres. Le temps est lié aux astres, donc au mouvement des astres. Il y a des calendriers lunaires et des calendriers solaires, donc on découpe l'année différemment. Puis à l'intérieur, les mois aussi vont être forcément découpés différemment, si ce sont des mois solaires ou alors lunaires. Et pareil pour les semaines. Et donc on calcule ça en fonction toujours de ces mouvements planétaires. Donc, quelque part, nos horloges, ce sont ces cycles, et les anciens pensaient que nos horloges biologiques étaient calquées sur ces horloges extérieures. On a le cycle, par exemple, de la Lune, qui correspond au cycle menstruel chez la femme, cette fois 4-28 jours. Et on a beaucoup d'ailleurs de cycles qui fonctionnent sur le 7. Hein, la peau aussi a un rôle important. En lien avec le chiffre 7. Il y a donc beaucoup de cycles dans le corps et les anciens rattachaient certaines fonctions à telle planète.
Tout est cyclique parce que quand on dit aussi que la matière est vibratoire, la matière est énergie, quand on parle de la lumière, tous ces phénomènes vibratoires sont des phénomènes cycliques. Hein. Les rayons de lumière qu'on voit, ce sont des vibrations du champ électromagnétique. Donc on aurait cette notion de cycle partout dans l'univers qui serait vraiment une base, une constante universelle et qu'on oublie un petit peu dans notre civilisation occidentale où on a même oublié que le jour et la nuit se levaient tous les jours, etc.
Bien sûr, on est si on se rapproche de la nature, on voit que tout est cyclique, les saisons, et notre cycle respiratoire lui-même, on a fait des parallèles entre les cycles respiratoires et on les a agrandis et on a vu qu'ils correspondaient à des grands cycles de révolution zodiacale en les faisant grandir. Et ça rejoint une idée de la doctrine secrète de Madame Blavatsky, l'idée qu'il y a un grand atome qui serait l'univers, qui est composé de sous-atomes, qui inclut à chaque fois des atomes plus petits, qui en inclut de plus petits, jusqu'à l'atome de physique, qui lui-même, on a vu, inclut des microparticules, et on est arrivé maintenant jusqu'aux cordes, jusqu'aux tout petits constituants. Et on se rend compte même que ces cordes, elles s'enchevêtrent. Donc la corde, c'est une théorie qui est développée beaucoup pour essayer d'unifier tout ce qui est macrocosmique, notamment la théorie de la gravitation, et tout ce qui est microcosmique, la théorie des quantas. Donc on a essayé de trouver un système pour comprendre le rapport, une sorte de théorie qui pourrait expliquer autant le macrocosme que le microcosme. Et c'est la théorie des cordes. Et c'est intéressant de voir que on se représente donc l'espace, toutes ces microparticules composées d'enchevêtrements de ces cordes, comme des filaments enchevêtrés les uns dans les autres.
Ce qu'on voit quand on,
Ça serait l'atome ultime, quelque part.
quand on, oui, quand on prend en compte la théorie de la mécanique quantique pour regarder l'espace, donc l'espace, ça ne serait pas du tout quelque chose de continu, ça serait puisque c'est des petites cordes, donc c'est des petits quantas d'espace qui vibrent, bon, en plus ils vibrent, et qui sont ensemble. Donc c'est complètement, ça serait, c'est des petites entités, toutes ces petites cordes, à ton
Oui.
avis, c'est.
Oui, c'est en fait, si on prend le terme atome, pas seulement dans le sens physique, hein, stricto sensu, c'est-à-dire l'atome, si on comprend ça à un niveau macrocosmique comme microcosmique, on a à tous les niveaux, comme on a dit tout à l'heure, atome. Et on peut dire que l'atome le plus ultime serait composé de ces petites cordes enchevêtrées les unes dans les autres, et on a même essayé de décrire, ça c'est très intéressant, une sorte de structure d'atomes type d'enchevêtrement de ces cordes, et on a parlé même de dix dimensions, et c'est exactement ce que certains occultistes ont vu en essayant de voir à l'intérieur de l'atome ce qu'eux appelaient l'atome ultime, et ils ont vu pareil une sorte d'enchevêtrement comme ça de spires, et il y en aurait 10, trois majeurs et sept qui en découlent. Et on est en train de développer des théories analogues au niveau de la théorie des cordes. On pense que ces cordes peuvent donner 10 dimensions. On en compte une onzième de temps, mais elle est symbolique quelque part. Mais ça, je trouve ça très intéressant que le travail des clairvoyants et le travail de ceux qui travaillent sur les cordes arrivent à des conclusions semblables. Ce qu'on dit aussi dans l'ésotérisme, l'atome type, quelque part, on a toujours une trinité et cette spire, cette zone qui peuvent vibrer de façon différente. Parce qu'une corde, c'est quelque chose qui a une masse. La corde est très tendue, on pense à une corde de piano. Donc la masse, ça rappelle la gravitation, ça rappelle Einstein. Et c'est quelque chose aussi qui vibre, qui fonctionne comme une onde. Et là, on est dans la physique quantique. Car on n'a pas expliqué un petit peu la physique quantique. Elle semble fonctionner à l'inverse. C'est-à-dire que, il y a une notion de discontinuité. Il y a des petits paquets d'énergie, c'est un quantum qui devient donc des quantas. C'est émis selon des fréquences différentes. Il y a un principe d'incertitude, on ne peut pas les localiser. Si on localise spatialement, on ne peut pas savoir la vitesse, et inversement, on ne peut pas donc localiser ça, c'est discontinu. Et il y a une notion d'ubiquité, c'est-à-dire que ces quantas peuvent être partout à la fois.
Oui, non seulement ils peuvent être partout à la fois, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a les différents états de la matière ou de la lumière se superposent et sont indiscernables. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'expériences qui ont été faites où on ne sait pas finalement si la particule, elle est onde ou particule. Et c'est simplement l'expérience finale, donc le résultat de l'expérience, au moment où on va observer cette onde ou cette particule, qu'en fonction de l'expérience, elle sera devenue onde ou particule.
Voilà,
Donc, il y a beaucoup.
l'intérêt de la théorie des cordes. C'est qu'on donne des noms avant, on donne des noms, par exemple dans l'atome, après on est allé donner des noms aux particules élémentaires. Et on a vu que d'ailleurs c'est intéressant, on retrouve encore l'ésotérisme, elle fonctionne par famille de trois, des particules élémentaires. Et après on a vu qu'il y avait aussi des particules messagères qui représentent la manifestation d'une force. Eh bien, du point de vue des cordes, c'est pareil. Une corde va créer un photon, qui est la particule messagère de la force électromagnétique, mais une corde peut créer un électron, un neutrino ou un quarks, peu importe. C'est l'enchevêtrement de ces cordes qui crée ce que nous on appelle quarks, Donc, quark, c'est la particule élémentaire qui compose le proton, le neutrino, ou alors l'électron, mais c'est simplement la façon dont ces cordes vont être mêlées entre elles, et la façon dont elles vont vibrer, qui va donner le nom et la structure que l'on donne à ces microparticules. Et pareil pour la particule messagère. En fait, on classe les choses, le mental classe les choses, mais ces théories des cordes montrent qu'elles expliquent le constituant fondamental de l'espace, et qu'on peut comprendre ce constituant à travers la théorie d'Einstein ou à travers la physique quantique, on peut les rapprocher. Et c'est pour l'instant, on pense, peut-être la théorie la plus élaborée pour rapprocher ces deux visions. Je dis bien qu'elles semblent différentes, mais à mon avis, elles ne le sont pas. Elles fonctionnent sur... Dans les deux, il y a une notion de relativité quelque part. Il y a une notion, il y a l'idée que nos notions fixes et immuables disparaissent. Autant avec la vision spatiale de la théorie quantique, parce qu'on se rend compte que les choses vibrent constamment, qu'il y a une frénésie quantique, qu'elles sont partout à la fois, qu'on peut pas, on peut pas en fait localiser typiquement les choses, et autant avec nos notions de relativité d'espace-temps, avec Einstein.
Oui, les notions que nous connaissons sont valables dans un environnement macroscopique, dans notre univers familier, mais ne correspondent pas à la vraie réalité de l'univers.
En fait, c'est un point de vue. Ce que Newton décrit, c'est la vie de façon tous les jours, ou c'est pour ça d'ailleurs que cette théorie a fonctionné longtemps, c'est une réalité quelque part à un niveau. Mais dès qu'on rentre dans l'infiniment petit, ou dès qu'on va dans l'infiniment grand, on se rend compte que cette vision newtonienne ne fonctionne plus. Les choses sont plus complexes. Donc on rentre dans cette idée que l'espace est quelque chose de fluctuant, de vibratoire en fait. C'est ça l'idée. L'espace est vibratoire. Et le temps est simplement notre façon de capter cette vibration.
Eh bien, c'était la fin, c'est maintenant la fin de cette première partie et nous passons à une pause musicale. Dans la première partie de notre émission, nous avons vu que l'espace et le temps, des concepts ésotériques dans les traditions, se rapprochent des nouvelles notions, de la nouvelle façon de voir dans la science, à la fois par les théories des cordes, par la mécanique quantique, par la relativité restreinte et générale. Nous allons maintenant parler des cycles, parce que tout est cycle. Et tout le monde, bien sûr, se pose la question, mais l'univers, a-t-il un commencement, a-t-il une fin? Donc, David, est-ce que tu peux nous parler du cycle de création de l'univers, de la création du Big Bang?
Alors déjà, selon les traditions ésotériques que l'on retrouve dans les différentes, cachées derrière les différents symboles religieux, il y a cette notion en Inde notamment que l'univers se crée cycliquement et se détruit cycliquement. Donc il y aurait eu plusieurs Big Bang. Il y aura l'inverse, le Big Crunch, pense-t-on, c'est-à-dire le réeffondrement de l'univers sur lui-même et sa disparition. Donc même la création de l'univers et sa disparition sont cycliques. Il y a cette notion de bindu en Inde. Le bindu, c'est une sorte de point central, quelque part, d'où tout procède. C'est exactement l'équivalent de ce qu'on appelle le point de singularité en physique. Le point à partir duquel il y a eu cette expansion de l'univers. C'est le bindu indien. C'est intéressant de voir que dans l'iconographie de Shiva Nataraja, l'aspect de Shiva qui danse, on a un danseur, tout le monde connaît un petit peu ce Shiva qui danse au milieu d'un cercle de flammes. On a tous les aspects, tous les ingrédients de la théorie du Big Bang. Shiva est au centre, et si on regarde cette statue ou cette peinture, Shiva donc est au centre d'un cercle de feu qui représente le haut niveau de chaleur On sait que le Big Bang a constitué à son origine un très haut niveau de chaleur. Et si on prend ce cercle, il part du nombril de Shiva, quelque part, donc son centre de gravité, et il s'expand. Donc on a la notion de flamme, on a le petit tambour de Shiva qui évoque le son primordial aussi, et sa rémanence quelque part. On parle d'un écho, on sait qu'il y a une sorte de son qui demeure depuis la création du Big Bang dans l'espace.
Alors, ce son
C'est le petit
qui.
tambour de Shiva.
Oui, le petit tambour de Shiva, c'est la radiation qu'on a présente dans l'univers et qui, à quelques millisecondes ou etc., ce qui. C'est ça. Donc,
On
le.
dit qu'il y a un mantra, que Shiva a utilisé un mantra qu'on appelle le Maheshvara Sutra, c'est-à-dire le sutra du grand seigneur, avec toutes les lettres de l'alphabet, et que ça a créé toutes les formes de vibrations. Donc il y a une théorie du langage qui est une théorie du son, de la vibration, et qu'avec ce petit tambour et cette danse, Shiva va animer l'univers à partir de ce bindu, de ce point central, quelque part. Et lui est au centre. Et il a donc plusieurs bras, et c'est intéressant de voir que son pied écrase un nain. Le nain symbolise la raréfaction de la matière. Voilà, cette idée que Shiva représenterait quelque part ce que les scientifiques ont découvert, cette énergie sombre, c'est-à-dire sombre parce que non lumineuse du point de vue des sens physiques. En fait, elle est très lumineuse, cette lumière. Mais c'est ce qu'on a appelé après le prana, le chi, l'éther. Même si les scientifiques se refusent à admettre cela, ils ont tout simplement découvert un nouveau nom pour l'éther, c'est l'énergie sombre, avec des points de matière sombre, donc des points gravitationnels qui fonctionneraient comme des masses, mais qu'on ne verrait pas. C'est comme des centres d'énergie, en fait. Et les astrophysiciens sont en train de découvrir tout le champ de l'univers, le champ, l'océan énergétique. Et ce nain, quand Shiva l'écrase, quelque part, il représente la raréfaction de la matière. Car on a découvert que dans l'univers, la matière, alors on n'est pas certain des chiffres, je crois que ça varie 10, peut-être 15%, mais pas plus. La matière est minoritaire dans l'univers. L'espace, qui semblait vide, se voit maintenant de plus en plus compris comme quelque chose qui est plein. Plein, on ne sait pas encore précisément de quoi, mais les traditions anciennes le disaient déjà, c'est l'espace de Dieu, c'est son corps subtil quelque part. Donc c'est intéressant et on a ce cercle de feu, ce tambour, ce Shiva au centre, ce nain écrasé qui est tout petit, et forcément c'est un nain qui représente la matière, c'est aussi l'illusion quelque part. Shiva écrase l'illusion, car Shiva sait très bien que cette matière, c'est qu'un petit bout de la réalité, et pendant des siècles, la physique s'est bornée à étudier la matière, et on se rend compte maintenant qu'on a étudié ce qui est minoritaire dans l'univers.
Oui, on a étudié à peu près 5% de l'univers. Et c'est pour ça qu'on peut dire que notre connaissance scientifique, physique, elle ne connaît que très peu de choses. Et c'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas réfuter tout ce qui est dit dans les traditions sur la conscience, sur les niveaux éthériques, sur les différents plans de conscience. Est-ce que tu peux nous parler des différents plans de conscience, David?
Alors, l'ésotérisme stipule que, il y a un espace subtil à différents niveaux et que l'espace physique que l'on voit, c'est la dernière forme d'espace. On a parlé parfois d'œuf du monde avec plusieurs couches, plusieurs peaux. En Inde, on parle d'Akasha. Akasha, c'est l'espace. Mais l'espace primordial, c'est un espace avec si on pourrait le traduire, avec une fréquence vibratoire très très haute. Et au fur et à mesure, cette fréquence descend et crée des mondes différents. Dans la théorie de maintenant, ça serait une notion de multi-univers. Mais ce n'est pas seulement des multi-univers qui sont les uns à côté des autres ou enchevêtrés les uns dans les autres, c'est qu'ils ont des fréquences et des modes d'existence qui sont complètement différentes en termes d'énergie. Plus on est proche de la source, plus les fréquences sont hautes, et on peut dire que la matière physique que l'on voit, ça serait la fréquence la plus basse, et à l'intérieur, on a subdivisé plusieurs fréquences, mais on est à l'intérieur de la grande famille fréquence-matière.
En disant autrement, c'est qu'à cet endroit-ci, devant cette table ou sur cette chaise, il y a à la fois le monde matériel que l'on voit et il y a aussi des mondes
Enchevêtré,
immatériels
oui, tout à
qui
fait.
sont dedans, qui sont, oui, comme tu dis, enchevêtrés, et qui sont présents et qui sont qui dirigent un petit peu tout cet univers.
Voilà, l'ésotérisme stipule que si on change la fréquence vibratoire, on se met sur la fréquence qui correspond, c'est comme en radio, hein, pour capter avec notre transistor une radio, on nous donne une fréquence FM par exemple, et on se met sur cette fréquence.
Oui,
Et ben
alors que
c'est,
dans...
on fait la même chose dans les plans de
C'est
conscience.
ça, c'est-à-dire que c'est la, l'analogie, elle est très bonne. Ça veut dire que dans l'air autour de nous, il y a l'ensemble de toutes les émissions radio qu'on peut capter dans, dans notre pays, hein, qui se superposent, qui sont là présentes. Et en réglant notre, notre appareil radio sur une fréquence, on capte une fréquence. Donc nous, dans notre vie de tous les jours, nous sommes branchés sur une certaine fréquence, sur une... dans un certain plan de conscience et que nous captons la réalité liée à ce plan de conscience.
Voilà, alors c'est pour ça tout à l'heure je parlais du photon. Pour moi, le photon représente la dernière particule physique, car le photon est physique, on le voit, il est lumineux. C'est le monde intermédiaire avant que la matière devienne purement subtile, éthérée. Le photon représente cette lumière. Et d'un point de vue ésotérique, on pense que la lumière est créée quand il y a un pôle positif et un pôle négatif qui se rencontrent, comme en électricité normale. Et bien là, le pôle positif, ça serait l'éther, le pôle négatif, la matière. Dense, et cette lumière, cette particule interactive, qui est une sorte de pont, quelque part. Et elle est limitée en termes de rapidité. On sait qu'elle fait 300 000 km/s. Et l'idée que en montant, on aurait des ondes qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a pas étudiées, mais qui sont sûrement beaucoup plus rapides et avec des fréquences aussi beaucoup plus importantes. On sait par exemple que l'énergie nucléaire. Les radiations nucléaires dans le spectre électromagnétique, c'est la fin du spectre. Et c'est pour ça qu'elles sont dangereuses, parce qu'elles détruisent la matière. Mais peut-être qu'on pourrait élargir l'échelle et se rendre compte qu'il y a d'autres séries d'échelles comme ça. Et c'est ce que dit l'ésotérisme. Il y aura une échelle éthérique, puis au-dessus, il y aura encore une échelle astrale, émotionnelle, il y aura une échelle mentale, intuitionnelle, etc. Et on continuerait comme ça dans les mondes. Donc, cette notion de multi-univers existe dans les traditions anciennes, mais il faut les comprendre comme des niveaux de conscience. Donc, on capte le monde en fonction de la fréquence que l'on utilise.
Alors, justement, dans ces, dans cette perception des niveaux de conscience, un être élevé, par exemple, un maître de sagesse qui, lui, fonctionne sur des plans plus élevés, par exemple sur le plan bouddhique, c'est là qu'il
Intuitif, hein.
il n'est plus lié par le temps, c'est-à-dire qu'il a une autre perception du temps et il arrive sur ces plans-là. Alors, c'est une notion qui n'est pas très facile, c'est à. Avoir en même temps devant lui le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire que dans ces plans de conscience, il y a une sorte de source qui va donner tous les le déroulement de la vie de, d'un être humain, par exemple, ou des événements dans un pays.
Voilà, c'est l'idée que plus on monte, donc si je garde l'échelle de l'image de la fréquence vibratoire en termes de conscience, donc si on rentre dans un espace où les fréquences sont plus hautes, on a à ce moment-là une vision de plus en plus inclusive pour les fréquences plus basses. L'idée que le plus grand inclut le plus petit, et pas l'inverse. Le plus petit ne réussit pas à percevoir le plus grand. Il imagine, il fonctionne par analogie. Mais le plus grand. Si tu penses à ces niveaux de conscience supérieure, si on est sur le plan de l'intuition, on va comprendre le monde de la pensée, de l'émotion et le monde physique, parce qu'on a une échelle plus grande, on a une compréhension beaucoup plus large des choses. Donc c'est intéressant de concevoir que notre vision de l'espace-temps a évolué aussi parce que l'humanité s'est transformée psychologiquement, qu'elle a développé des capacités mentales qui n'existaient pas auparavant. Et cette notion d'énergie noire et de substance noire, donc noire parce que non lumineuse, non visible, on va se rendre compte au fur et à mesure que c'est un nouveau monde, c'est un monde supraphysique qu'on appelle éthérique, et dans les traditions grecques, et puis on parle du chi en Chine, du ki au Japon, du prana en Inde, mais que quelque part il y a une réalité plus, c'est une substance qui n'est pas matérielle, dense, mais qui existe, et c'est un revêtement. Et ce tissu, quelque part, cet océan, est présent et baigne toutes les particules qui existent. Donc on va se rendre compte que on peut agir dessus.
Oui, déjà il a été mesuré puisque par les scientifiques, puisque c'est toute cette énergie sombre dont on a mesuré la conséquence sur l'expansion de l'univers. Donc c'est sûr qu'on a modifié ça. On voit bien que les guérisseurs aussi travaillent sur le tissu éthérique. Il y avait Reich et puis sa machine pour à accumuler l'organe. Donc on voit qu'on a tout un faisceau de preuves pour démontrer que ces niveaux éthériques existent.
Voilà, c'est pas différent des chakras, des méridiens qui sont constitués par, moi je vais appeler ça éther, même si les scientifiques ne croient pas à l'éther, mais à mon avis ils nomment l'éther avec des nouveaux mots, hein. Mais ils sont en train de découvrir que cette énergie crée une très puissante forme de radiation. C'est une énergie centrifuge, une énergie qui est responsable de l'expansion de l'univers. Alors ils vont associer cette énergie sombre au facteur d'expansion. Mais en fait, quand ils vont comprendre que cette énergie est aussi présente dans la gravitation, quelque part, c'est elle qui fait que la matière gravite, ils vont comprendre que dans cette énergie, il y a les deux pôles. Il y a le pôle centrifuge et centripète, le pôle plus, le pôle moins, et même un troisième pôle, un pôle qui équilibre ces deux-là. Et on retrouve cette trinité, ces trois facteurs. Je voudrais insister sur le chiffre 3 car on le retrouve beaucoup en physique. La lumière va 300 000 km seconde, on retrouve ce 3. On ne va pas chipoter sur le chiffre exact, hein, je ne sais plus combien c'est, 299 000, je ne sais plus combien, bon bref. Mais on se rapproche du 3. On voit que le 3 intervient dans la constitution aussi des particules, elles fonctionnent par famille de 3. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a encore, même dans l'infiniment petit, une notion de trinité, de triade. Et donc, on comprend que s'il y a des constantes, c'est qu'il y a des lois derrière. Il y a des principes. Et la philosophie ésotérique explique que tout ce qui est création est relié au chiffre 3. C'est le troisième logo, ça correspond à Saturne, à Brahma en Inde. Ça correspond à cette énergie d'intelligence universelle qui va créer. Et elle crée l'espace, donc elle va quelque part manifester une forme de temps qu'on appelle le cycle.
Alors justement, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la création de l'univers? Comment ça se passe?
D'un point de vue ésotérique, il y a l'intelligence universelle de Dieu qui va manifester ce fameux akasha, ce fameux fluide, on pourrait dire cosmique, dans des très hautes températures, à des niveaux très élevé, je ne parle pas du Big Bang physique, mais une sorte de Big Bang spirituel. Et au fur et à mesure, ce Big Bang, il s'abaisse et il se crée. C'est comme s'il y avait une sorte de Big Bang sur chaque plan. Et que nous, ce que l'on a vu, c'est la création physique. Mais que cette création physique est la dernière d'une réaction en chaîne. C'est ce qui explique l'ésotérisme.
Et cette création donc se commence sur des plans supérieurs, se concrétise dans nos plans les plus bas qui sont les plans de notre vie matérielle. Et donc cette création sur des plans supérieurs, elle n'est pas contrainte par le temps. Puisque sur ces plans supérieurs, le temps tel que nous le connaissons n'existe pas.
Il existe nulle part en fait, mais il y a un phénomène cyclique forcément. Si on parle d'un point primordial, un point de singularité, un bindu en langage hindou, et qu'il y a une expansion, une croissance, il y a quelque chose de cyclique, il y a une manifestation qu'on pourrait dire de temps. Mais on est d'accord, le temps n'est pas une entité. Mais il y a un phénomène de flux et de reflux permanent, et c'est une loi. Un principe fondamental c'est le deuxième principe fondamental en fait que l'on trouve chez Madame Blavatsky dans son ouvrage La Doctrine Secrète. Elle dit qu'il y a une vie universelle, il y a la seule vie, une seule vie partout, et que cette vie se manifeste par un flux et un reflux permanent. C'est ce qu'on pourrait appeler le cycle.
C'est-à-dire que notre univers que nous voyons créer aujourd'hui, avec les étoiles, la Terre, le Soleil, etc., donc a une vie. Bon, la Terre, on sait qu'on estime sa vie à environ 4 milliards d'années, l'univers à 12 milliards d'années. Donc cette vie va créer, cet univers, avec toutes ses étoiles, va mourir, va disparaître et un autre univers sera créé derrière.
Ça se crée à l'intérieur de l'espace-temps, dans notre galaxie, voilà, comme tu le dis. Il y a des systèmes complets qui, à un moment, les astres s'effondrent. On parle de naines blanches, d'abord de supernova, de naines blanches, et voilà, d'effondrement et autres. C'est quelque part la disparition. Il y a des astres qui vivent physiquement, et après, l'ésotérisme explique en fait que ça devient uniquement éthérique. Ça passe dans un monde de réalité plus subtile. Mais ça continue, et c'est ça là, qui est un peu curieux, ça continue de... Il y a énormément de corps planétaires que l'on ne voit pas, mais qui existent éthériquement et qui ont une grosse influence.
Par exemple, la planète Vulcain.
Voilà, la planète Vulcain, qui est... Lavoisier l'aurait peut-être vue au 19e, on n'est pas sûr, mais en fait, elle est en substance éthérique et on ne peut pas mesurer sa gravitation parce qu'elle est tellement proche du Soleil, mais il y a énormément de corps qui existent et qui créent, qui déforment aussi l'espace-temps, en langage de relativité, et qui ont autant un effet centripète que centrifuge. C'est ça l'idée. C'est que dans l'espace éthérique, on peut dire même que nos chakras, nos centres d'énergie, sont des sortes de trous noirs quelque part, sont des sortes de zones où l'énergie se comprime. Et on a même vu qu'en fait, qu'il peut y avoir même dans un trou noir une forme d'émanation. Donc on voit qu'on a constamment une double polarité partout dans cet espace d'énergie. Ce que l'on voit physiquement, c'est ça la règle, existe en amont, à un niveau plus subtil. Et c'est pas l'inverse.
Pour parler d'autres types de cycles, est-ce que nous pouvons parler des cycles astrologiques, c'est-à-dire des petits cycles zodiacaux hein, sur l'année, sur 24 000 ans, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ça ?
On peut les classer un petit peu. On peut, par exemple, partir du cycle respiratoire. Hein, on dit qu'on a en gros 4 grands cycles, 4 grands cycles par minute, on a calculé en gros sur un an qu'on avait un cycle macrocosmique zodiacal. Donc on a le cycle cellulaire du corps, on a donc le cycle journalier, quelque part, qui reproduit cette évolution. Alors si on a 4 temps, c'est ça en fait, si on prend le cycle zodiacal, on peut voir avec une croix, et c'est toujours comme ça qu'on le représente, hein, abscisse ordonnée. Et en fait, il y a quatre instants clés, comme dans une journée complète. Et on va donner entre chaque grand axe, on a deux autres signes complémentaires qui sont des signes de transition. Et c'est comme ça qu'on a le 12, hein, comme la croix cathare. Hein. C'est-à-dire comme si chaque pointe de croix avait en fait trois énergies. Donc on a le 12 avec le 4. Donc on a ça sur une journée complète, on va retrouver des mois lunaires, des mois solaires selon le calendrier que l'on adopte. Et après on a le cycle annuel, où pareil, on a 4 grandes saisons, mais dans une saison on a 3 grandes périodes, donc on retrouve le 12. Et après on élargit ce cycle sur 2500 ans, et on a une ère zodiacale. À l'intérieur il y a encore des sous-cycles bien sûr. Et cette ère zodiacale, en gros, de 2500 ans ou 2160 ans, si on la multiplie par 12, on a le cycle de 25 920 ans. Donc c'est une grande ronde. Et on a comme ça voilà, des cycles de plus en plus grands, comme des roues de plus en plus grandes, qui en tournant, quelque part, font tourner des roues plus petites. Jusqu'au cycle respiratoire et même des cycles microcosmiques, intra-atomiques quelque part. Tout est cyclique. Cette idée que dès que quelque chose existe, ça pulse. Il y a eu un cycle propre à chaque réalité d'existence. C'est une loi.
Oui, ça c'est vraiment une loi qui a été donnée par Madame Blavatsky donc, au 19e siècle. Et c'est vrai qu'on...
On peut retrouver ça avec la théorie des cordes. Hein. Si c'est fait de cordes, ça vibre.
Ah oui, oui. On voit que c'est une notion qui n'était pas très prégnante hein, dans notre civilisation occidentale. On a plutôt une notion de temps linéaire hein, où on se projette dans le futur et on agit aujourd'hui pour obtenir quelque chose ou faire quelque chose dans le futur. Et cette notion de cycle, elle donne plutôt une notion d'évolution par des passages successifs dans des énergies. Et au fur et à mesure qu'on évolue, l'influence de l'énergie cyclique nous transforme.
Voilà, elle change de nature. Donc, c'est vrai que le temps des anciens, c'est un temps cyclique. On a, par exemple, je ne sais pas si on prend les Aztèques, hein, on a l'idée que chaque jour, Quetzalcoatl va vivre un parcours initiatique. On peut partir du soleil à midi, et puis au fur et à mesure, ça va être le crépuscule, puis il va passer dans la nuit, puis de nouveau l'aurore et de nouveau midi, et voilà, il y avait cette course du soleil chez les Égyptiens, avec Ra aussi. Il y a cette notion de cycle qui est un cycle de la nature et qui s'apparente, comme tu le dis, après un cycle initiatique. Et ça qui devient intéressant, c'est-à-dire qu'on parcourt X fois ce cycle, mais au fur et à mesure, on se transforme, notre fréquence vibratoire quelque part augmente, et on passe dans d'autres réalités, mais toujours en parcourant ces cycles, avec une notion de un niveau de conscience différent. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'évolution.
Oui, d'ailleurs, le cycle, ça permet d'évoluer et de changer avec un nombre limité d'énergie. Hein, on parle des 7 rayons principaux, effectivement, ou des 12 signes zodiacaux. Donc, effectivement, le cycle permet d'évoluer à l'intérieur d'un nombre d'énergie fini. Puisqu'en repassant dans le même cycle, comme on a évolué, les actions sont différentes et ça permet de se transformer.
Voilà, on les raffine quelque part. On raffine, en termes d'espace, on pourrait dire, ces fameux corps, donc notre corps physique, notre corps énergétique, notre corps émotionnel, mental, sont raffinés, montent en fréquence vibratoire. Donc, c'est intéressant que cette notion d'espace-temps nous amène au cycle initiatique, au cycle évolutif. Il y a aussi cette idée dans les traditions anciennes, c'est qu'on ne meurt pas, qu'à la fin de la vie, on perd son corps, comme oui. Le serpent qui mue, qui perd une peau, pour retrouver une nouvelle peau et recommencer là où on avait arrêté. Et on continue, c'est-à-dire qu'on se réincarne, on s'excarne, on se réincarne. Ce n'est pas seulement une croyance orientale, on les a eues chez les premiers chrétiens, on les a chez certains kabbalistes, soufis, donc même dans les religions monothéistes, ces doctrines sont présentes, bien que peu courantes, je l'accorde. Alors qu'en Orient, c'est institué, cette notion de cycle de renaissance. Donc, on dit que ces fameuses énergies fonctionnent selon un mode cyclique en spirale. Donc, il ne faut pas voir quelque chose d'uniquement rotatif, c'est cyclique en spirale parce que, au fur et à mesure, on monte un étage supérieur de la spirale. Hein, c'est comme s'il y avait une rotation qu'à certains moments, on décroche et on passe à un niveau, à une fréquence différente. Je donne souvent l'exemple d'un lacet. Si on le fait tourner sur place comme ça, ça forme quelque chose d'uniquement rotatif. Mais si on étire un peu, on monte le lacet, hein, on a une forme un peu conique et on a une sorte de cercle très 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 long, puis qui devient de plus en plus petit et au fur et à mesure qui tend vers une progression en avant. Donc on a 3 grands mouvements d'énergie, purement rotatif, cyclique en spirale, avec une forme d'aspiration et de rétrécissement du cycle quelque part, et on arrive vers une progression en avant. C'est un petit peu les 3 mouvements qui sont décrits, si certains sont intéressés par ce sujet, dans le traité sur le feu cosmique d'Alice Bailey. C'est 3 mouvements essentiels de l'énergie, et qui représentent l'aspect rotatif, l'aspect matière, l'aspect conscience avec cette notion cyclique en spirale, et la progression en avant représente le retour à la source, à l'esprit.
Qui est la volonté alors.
Voilà.
La volonté qui anime et qui fait progresser. Est-ce que nous pouvons conclure cette émission en quelques phrases, David ?
Eh bien, on peut dire que l'espace et le temps tel qu'on le comprenait avec Newton, cette conception est en train de faire son chemin en nous. On l'a abandonné, ou du moins on l'a complètement transformé. On a une vision maintenant qui est complètement relativiste et quantique de l'espace-temps. Et d'une façon paradoxale, on retrouve certaines théories des anciens, la musique des sphères, les vibrations, les fréquences. Sous une forme imagée, c'est aussi le langage des traditions anciennes. Donc, science moderne rejoint sagesse ancienne avec des mots différents, mais des concepts qui semblent différents, mais quand on les analyse, on se rend compte que les idées archétypales, quelque part, sont les mêmes.
Eh bien voici, cette émission s'achève. Nous vous souhaitons une bonne soirée et nous vous disons au mois prochain.
Merci Dominique, au revoir à tous.
Thank you.